Dans l'industrie aéronautique, la pénurie actuelle de pièces représente l'un des enjeux les plus pressants. Mais c'est aussi une opportunité pour Optima Aero, qui se concentre sur le rachat d'aéronefs pour les transformer en pièces de rechange certifiées. Le défi de l'entreprise, développer de nouveaux marchés ici, mais aussi partout dans le monde. Dans cet épisode de Libre-Échange, on va discuter de croissance internationale. Avec moi pour en parler, Toby Gold, président d'Optima Aero, Josiane Sénécal, directrice de compte, et Laurent Suruska, directeur développement services internationaux chez Desjardins Entreprises, et Julie White, présidente directrice générale, manufacturier et exportateur du Québec. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Bienvenue à Libre-Échange. Toby, vous venez de fêter les 15 ans d'Optima Aero. Et je le rappelle, vous êtes aujourd'hui leader mondial en pièces d'hélicoptère remises à neuf. Ça a été une croissance phénoménale. Quel a été l'élément déclencheur, vous diriez, de cette croissance?
Je pense qu'il y a un besoin de l'industrie pour des pièces, avoir plus de pièces à bon coût. Disponibles immédiatement, il y a une pénurie au niveau des pièces aéronautiques actuellement, mais ça date quand même d'un certain temps. Depuis la COVID, on a vu une accélération de la demande. Mais anciennement aussi, il y avait un besoin. Il y a beaucoup de croissance dans l'aéronautique en général dans le monde. Maintenant, avec la croissance du militaire par les temps qui courent, ça augmente la pression sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui crée une grande demande en pièces réutilisées.
Oui. Vous parliez de la COVID. Ça a été un moment charnière pour Optima Aero, la COVID.
Oui, tout à fait. Donc, on avait un contrat avec une entreprise en Europe qui a été annulée en raison de la COVID. Donc, il a fallu se réinventer rapidement. On avait un bâtiment en construction à Belleuil de 30 000 pieds carrés, donc un gros investissement appuyé par Desjardins. Le projet était arrêté. Donc, il fallait réinventer notre modèle d'affaires rapidement. Donc, c'est là qu'on s'est lancé, commencé à acheter des hélicoptères complets. Et ça a rapidement accéléré notre croissance. Des fois, les défis font l'opportunité aussi. Et ça, c'était un cas concret où est-ce qu'on a su se redresser avec l'aide de Desjardins qui nous a appuyés dans notre changement de direction.
Oui, parce que là, il a fallu donc apprendre à gérer la croissance ici, tout en développant des marchés à l'international. Comment on y arrive, Toby?
C'est une bonne question, Isabelle. C'est pas facile parce qu'on essaie de se concentrer sur nos opérations au Québec.
Ouais. Mais on sait. Vous avez une usine à Belleuil?
On a une usine à Belleuil, tout à fait. Donc, on a vu que quand même un tiers des hélicoptères mondialement sont en Europe. Donc, si on voulait pénétrer ce marché-là, il fallait être présent. Il fallait être présent, mais aussi pour acheter. Acheter des hélicoptères, s'il faut le mettre sur un bateau, que ça prenne 3-4 semaines se rendre au Québec, bien, on n'est pas tout à fait gagnant. Ouais. Et au point de vue environnemental, aussi réduction des émissions carbone, vaut mieux faire localement notre chiffre d'affaires et nos transports. Donc, ça nous a aidé beaucoup à grandir. C'est notre meilleur site encore aujourd'hui. La France vraiment rayonne en Europe.
Il y a une Vous êtes près de Biarritz, hein, Toby?
Oui, tout à fait, oui.
Pas très loin de la plage, d'ailleurs. Ça doit aider pour attirer des talents, ça?
Disons qu'on a une attractivité pour les talents assez impressionnante en Europe à cause du développement durable. L'aéronautique, c'est très fort aussi en France. Donc, très grand appel auprès des jeunes,
Et vous êtes aussi au Texas?
On est au Texas depuis maintenant 2 ans et demi, près de Dallas, donc un grand marché. Par contre, c'est un peu plus difficile là-bas, plus de concurrence, moins d'intérêt pour les pièces usagées. Donc, il a fallu développer un peu le modèle d'affaires, se faire connaître. Et encore aujourd'hui, on a une super équipe là-bas, mais il faut travailler un peu plus fort pour gagner là-bas.
Oui, alors on voit que vous êtes là dans 3 marchés finalement. Ouais. Europe, Canada, Québec, États-Unis. Julie White, je me tourne vers vous, Julie, parce que manufacturier, exportateur, justement, vous aidez des entreprises comme Optima Aero à développer des marchés. Qu'est-ce qu'on doit considérer, Julie, pour développer des marchés internationaux?
Il y a plusieurs facteurs, mais le premier, c'est que ça prend du temps.
Ouais.
Il faut en être conscient quand on s'embarque dans cette démarche-là. C'est un 3 à 5 ans en moyenne qu'on dit pour développer un nouveau marché. Il y a des exigences à la fois réglementaires, techniques, les façons de faire, les affaires aussi dans les différents marchés sont différentes. Donc, il faut s'embarquer dans cette aventure-là en étant conscient du temps et de l'énergie que ça prend pour réussir. Mais il y a plein de succès et il y a plein d'outils aussi pour aider les entreprises dans cette aventure-là des nouveaux marchés.
Et qu'est-ce qu'on doit considérer, en fait, avant de se lancer?
Il faut prendre le temps de bien faire son diagnostic, savoir les marchés, on ne peut pas dire juste « je vais aller en Europe parce que c'est intéressant ». L'exemple d'Optima est bien là-dessus. C'est un marché de l'aéronautique intéressant en France. La question du carbone, des gaz à effet de serre est aussi pertinente. Donc, ça s'intégrait bien dans un marché qui est le marché européen. Maintenant, c'est pas toutes les entreprises manufacturières qui peuvent se dire que l'Europe, c'est leur meilleure solution. Des fois, c'est encore les États-Unis la meilleure solution. Des fois, c'est l'Asie. On a un grand accord de libre-échange aussi avec l'Asie-Pacifique. Donc, il faut prendre le temps d'analyser notre marché, la saturation du marché aussi dans les différents endroits. Et on a des accords de libre-échange relativement intéressants au Canada. On en a avec beaucoup, beaucoup de pays. Commençons par regarder ces pays-là. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée.
Dans le contexte actuel, il y a des défis supplémentaires. Là, vous parlez de l'accord de libre-échange, il y a la CEA avec les États-Unis. Tout est à considérer. Là.
Oui, effectivement. Et les États-Unis, ça demeure notre principal marché aussi. Faut se le dire, il faut être honnête là-dessus. C'est un des plus grands marchés mondiaux. Ça demeure un joueur important. Est-ce que c'est plus compliqué que ce l'était? Oui, mais c'est aussi plus compliqué pour l'ensemble des pays de faire affaire aux États-Unis. Donc, on a quand même un certain avantage compétitif de ce côté-là. Mais c'est le temps de regarder l'ensemble des options. T'sais, si j'ai un message à passer aux entreprises aujourd'hui, c'est que vous n'allez peut-être pas tous développer un nouveau marché, mais c'est le temps de regarder, de prendre les outils qui sont à votre disposition, comme le passeport affaires de Desjardins, et de regarder quel marché on peut développer.
Et vous avez dit Asie. Je pense, Toby, justement, vous avez justement des bases en Asie déjà.
On a deux personnes qui font du développement d'affaires actuellement, une à Singapour et une autre aux Philippines. Et l'idée, c'est notre prochain marché à développer. Il faut y aller progressivement. Hein. Donc, on a commencé avec le Canada. On a mis ensuite deux années après notre nouveau site au Québec. On a mis deux années avant de s'investir en Europe. Et ensuite, un autre deux années avant de s'investir aux États-Unis. Donc, y aller progressivement. Et maintenant, on est en Asie, donc en train de développer, défricher ce marché-là. Mais on commence à avoir des succès, notamment au Japon. Naturellement, en Australie, c'est un marché mature, très connaissant, qui ressemble beaucoup au Canada, en fait, en termes de marché.
Donc, l'Océanie.
Oui, tout à fait.
Vous, en fait, c'est le monde.
Oui, tout à fait.
On peut dire ça comme ça.
Tout à fait, oui. C'est ce qu'on ambitionne à faire.
Et c'est là où on a besoin de Josiane et Laurent. Josiane, vous êtes directrice de compte chez Desjardins. Vous vous occupez d'aider Toby et Optima Aero à développer ces marchés internationaux. Parlez-moi un peu de votre relation depuis 8 ans, parce que ça fait 8 ans là, que vous êtes ensemble.
Dans le fond, j'ai été la seule directrice de compte chez Desjardins. L'entreprise a beaucoup évolué en 8 ans. Vous avez changé un peu votre modèle d'affaires. Fait qu'on a dû s'ajuster aux besoins puis aux ambitions de l'entreprise tout au long de ces 8 années-là.
Ouais, et surtout les 5 dernières années, oui, Toby en parlait, il y a eu le « se réinventer », on l'a beaucoup entendu, mais ça a été un
peu... Puis c'est un secteur d'activité qui est très niché. Ouais. Fait qu'à chaque fois, faut comme défricher un peu le terrain, être créatif au niveau financement pour pouvoir les accompagner, parce que il y en a pas beaucoup des entreprises qui font ça, en fait, c'est pas mal.
Et qui sont sur plusieurs territoires
comme
ça. Oui,
c'est ça.
Justement, comment on intègre un projet de développement international dans une planification financière?
Bien, en fait, ça dépend du projet. Ça dépend si c'est s'implanter à l'étranger, partir quelque chose de zéro. Ça peut être acheter une filiale aussi étrangère ou travailler avec des distributeurs. Fait que dépendamment du projet, bien, on trouve une façon d'accompagner nos clients.
Oui. Et là, l'importance de développer des partenaires, là, ça entre en jeu. Il faut trouver les bons partenaires pour les financements.
Effectivement. Ouais. On travaille beaucoup avec Exportation Développement Canada et Investissement Québec qui sont en mesure de nous donner des garanties supplémentaires qui nous permettent de donner plus de flexibilité à nos clients dans leur financement.
Ouais. Et ça a été important pour vous.
Oui.
Tout à fait, parce que souvent, les banques, les institutions financières vont être habituées de financer des actifs d'investissement capital. Mais nous, on est beaucoup dans l'inventaire et comptes à recevoir un petit peu. Et donc, c'est une formule qui est un peu différente de l'entreprise moyenne et surtout avec des stocks qui sont usagés, remis à neuf.
C'est ça.
Donc, ça comporte un certain risque qu'on comprend pour Desjardins. Qui prennent ce risque-là, ils partagent avec les institutions comme EDC, Investissement Québec. Et donc, je pense qu'une belle formule là qu'ils ont développée pour nous soutenir dans notre croissance. Beaucoup aussi d'agilité démontrée et d'adaptation, parce que souvent, ils ont développé des nouveaux programmes pour nous parce qu'on était un peu différents, mais ils voyaient le potentiel dans ce qu'on allait faire.
On avait confiance en l'entrepreneur.
Bien, merci. Écoute, et puis, on vous le retourne aussi. C'est-à-dire que pour nous, on est très fiers de la relation. Et c'est vrai que j'en parle à mes collègues entrepreneurs également, parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose de bien. Je pense que les 8 ans passés ensemble le démontrent bien.
Wow! Il y a l'accompagnement aussi. Laurent, je me tourne vers vous, parce que là, il y a le financement, mais l'accompagnement, c'est important aussi. Là. C'est même majeur. Là. On parlait de partenariat, développer et tout. Comment vous accompagnez?
Tout à fait. Ben, nous, avant tout, on essaie de comprendre encore le modèle d'affaires des entrepreneurs. Et après, on essaie de les aider à réaliser leurs rêves, tout simplement. Quand Toby parle de développer...
Tout simplement ça.
Tout simplement ça.
Réaliser ses rêves, tout simplement.
Ben oui, on est là maintenant. En tant qu'institution financière, on veut amener une valeur ajoutée, on veut les aider dans leur croissance. Et au fait, chez Desjardins, ce que disait Julie tout à l'heure, on a un service pour les aider à se développer à l'international. Donc vraiment, l'objectif, avant de partir à l'international, c'est vraiment important d'identifier les marchés, de connaître vraiment quelle est la concurrence locale, comment se positionner par rapport à eux, c'est quoi notre valeur ajoutée qui nous distingue. Parce que c'est bien beau d'aller à l'international, mais s'il y a déjà des concurrents sur place, si on n'a pas de valeur ajoutée par rapport à eux, on va perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Donc il faut vraiment faire ce travail-là en amont avant de pouvoir aller à l'étranger pour pouvoir être beaucoup plus efficace.
Parce qu'on n'est pas toujours attendu non plus.
On n'est jamais attendu.
On a le rêve d'y aller.
Exactement. Mais les zones ne nous attendent pas. C'est un exemple concret. On a eu depuis le début de l'année M. Trump qui est arrivé, qui a vraiment redistribué les cartes. Beaucoup d'entrepreneurs ont mis un peu leur modèle d'affaires sur hold pour voir comment ça allait se dérouler. Et pendant toute cette période-là, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas continué à développer de nouveaux marchés, et peut-être que leurs concurrents, eux, l'ont fait. Donc déjà, il faut, l'important, c'est pas prendre du retard et de continuer à penser et avoir un coup d'avance par rapport à la concurrence, parce que sinon, eux, ils vont continuer à investir et à développer de nouveaux marchés.
Julie, vous êtes d'accord avec ça, là. Il y a cette espèce de danger d'être trop en attente, oser.
On l'a vu beaucoup, hein, surtout dans les premiers mois de l'administration Trump, d'une espèce de frein sur les investissements, frein sur les projets. Puis on comprend les entrepreneurs qui ont eu peur. Hein. Je ne dis pas ça avec, je dis ça avec beaucoup de déférence, c'est normal. Hein, quand on investit notre argent, quand on se donne autant dans une entreprise, mais il y a des opportunités et plus on ralentit ces investissements-là, plus on les met sur pause, bien, plus on prend du retard. Déjà qu'on a des enjeux de productivité, notamment au Québec, il ne faut pas hésiter, il faut aller voir les partenaires et essayer de trouver des solutions.
C'est ça. Et parmi les solutions, bien, il y a différents types d'aides, hein, Laurent? Parfait.
Bien, au niveau de l'exportation, il y a toute une offre, j'ai envie de dire, locale, donc québécoise et canadienne, qui existe avec un écosystème qui est assez riche, petit mais riche, où tous les joueurs se connaissent. Et chez Desjardins, on a une offre qui s'appelle Passeport Affaires, où l'objectif, via des ressources en local, donc au fait, on peut couvrir près de 80 pays à travers le monde via des partenaires, où on peut aider nos entrepreneurs à valider le potentiel de leur marché, à trouver des distributeurs ou des clients. On n'est pas que sur l'exportation, on est aussi sur la chaîne d'approvisionnement. On peut les aider à trouver de nouveaux fournisseurs. Mm-hmm. Donc pendant la pandémie, c'était un gros domaine où on a énormément aidé d'entreprises qui avaient juste des fournisseurs en Chine et qui disaient, bah là, tout a été fermé, comment est-ce que je fais pour me retourner? Donc on les a aidés à diversifier leur chaîne d'approvisionnement avec le Mexique, le Vietnam, l'Indonésie, la Turquie, d'autres pays. Donc mon rôle, moi, chez Desjardins, c'est vraiment de les accompagner. Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux y aller? Voici les ressources qui sont à ta disposition pour qu'on t'aide à accélérer ta croissance via des ressources en local qui connaissent les us et coutumes, la culture et surtout qui ont un réseau d'affaires.
C'est ça, parce qu'il y a des mythes aussi à déconstruire. Oui. Hein, Laurent, quand bien on sûr. Disait on n'est pas forcément attendu, vous en avez un peu parlé, Toby, tout à l'heure, que pour la France, bon, c'est bien d'être près de la plage, mais des fois, ça prend plus que ça. Il peut y avoir des petits grains dans l'engrenage. On ne veut pas ça dans les moteurs. Alors, comment on identifie justement, comment on aide?
Ben là, c'est par des discussions avec nos entrepreneurs où je vais les challenger. Toby, tu parles par exemple de la France. Au début, pourquoi tu voulais aller en France? Qu'est-ce qui te fait que ce marché-là serait intéressant? On a eu beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent « je vais aller en France parce qu'on parle la même langue
mm-hmm. ». C'est suffisant?
Non, pas du tout. Ben, c'est pas parce que tu parles la même langue qu'il y a un potentiel pour toi. Peut-être que c'est justement pas du tout un marché dédié à toi. Ça, c'est pas une raison valable pour aller développer le marché. C'est plutôt, est-ce que tu as des clients potentiels? Est-ce que tu as une valeur ajoutée? Qu'est-ce qui te distingue? Donc, c'est tout ça qu'on essaie de les solliciter. Puis nous, avec nos différents partenaires, on peut faire des validations en amont pour est-ce que ce marché-là fait du sens? Qu'est-ce qu'il en est? Et on va avoir des discussions beaucoup plus posées pour pouvoir leur permet d'accélérer leur croissance.
Le Québec a quand même un capital de sympathie en France important. Et c'est vrai qu'il faut regarder le concret, les analyses d'affaires, on va dire, mais le cœur des Français est très ouvert pour le Québécois. Nous, ça nous a aidé beaucoup en entreprise. C'est pas une pub pour le France que je fais là, mais c'est la réalité, c'est qu'il y a l'humain aussi derrière les gens à qui on fait affaire, autant aux États-Unis qu'en France, qu'ailleurs au monde, qu'en Angleterre, n'importe où. Il faut avoir des relations avec les gens, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui peuvent nous présenter localement chez Desjardins pour créer ces relations-là, c'est hyper important.
Ouais. Faire des affaires, c'est aussi des relations humaines. Hein,
oui,
c'est un facteur très, très important dans le développement de nouveaux marchés. Ouais. On ne peut pas penser qu'on va développer du Québec assis dans son bureau, un marché à l'extérieur. Il y a beaucoup de relations, beaucoup de temps à investir. Puis de trouver ces partenaires-là sur le terrain qui amènent cette relation-là humaine, c'est très, très important.
La confiance.
Oui, ouais. Confiance. Vous revenez avec la notion de temps. Vous avez commencé tout à l'heure, Julie, en disant que ça prend de la patience pour développer des marchés. Comment on aide les manufacturiers à rester concurrentiels?
C'est un excellent point. Puis il y a différentes solutions, mais si on y va sur des solutions un peu plus... commune à l'ensemble des entreprises. Il y a beaucoup de technologies qu'on peut implanter, améliorer notre productivité. Des fois, on pense, quand on parle de productivité, on pense nécessairement à un robot là, qui nous aide à produire. Ce n'est pas nécessairement ça. Là. Ça peut être des logiciels informatiques pour avoir une gestion plus efficace, plus simple des stocks, être capable d'optimiser certains processus. L'amélioration continue. C'est peut-être un peu vague pour la population, mais c'est des processus dans les usines de... optimiser chaque élément qu'on fait, chaque chose qu'on fait dans une usine pour s'assurer que le temps investi rapporte plus. C'est le temps en ce moment de regarder ça. Si on veut être prêt, continuer à faire face, avoir des produits avec des coûts qui sont raisonnables, il faut faire ces démarches-là, notamment d'intégration de technologies et d'amélioration continue.
Nous, on a mis en place ISO 9100 pour l'aéronautique. 14001 est en cours actuellement au niveau de l'environnement. Mais c'est des choses qui, pour moi, j'étais un peu dubitatif au départ, il y a 5 ans ou 6 ans, quand on a commencé cette démarche-là. Mm-hmm. Je me disais, OK, c'est de l'administratif, ça va juste nous embourber. Et ce que j'ai trouvé, c'est complètement le contraire. D'investir du temps dans ces standards-là, la standardisation de systèmes de gestion, ça permet de faire passer la vision aux opérations de façon concrétisée et cristalliser finalement le chemin d'entreprise de manière à pouvoir former les employés, les engager dans une démarche d'amélioration continue également. Mais c'est vraiment là qu'on se définit ensemble. Et donc, chaque employé, en écrivant des procédures, des instructions de travail, vient cristalliser notre modèle d'affaires et ensuite est capable de le reproduire pour le prochain. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces investissements-là aussi qu'on peut faire en administration de notre entreprise. C'est vraiment quelque chose qui aussi donne confiance à nos partenaires à l'étranger.
Ce mot-là revient souvent dans la discussion. La confiance, vous diriez, c'est le mot-clé?
Tout à fait. Surtout en aéronautique, où est-ce que tu as un élément vertical, où est-ce que tu aies confiance à l'équipement.
Tout à fait. Julie White, vous faites souvent dans les médias l'analogie avec la montagne. Mm-hmm. Quand on parle de diversification des marchés, pourquoi ça peut représenter une espèce d'Everest?
C'est déjà pas simple, hein, faire affaire, de se bâtir une entreprise, de se garder compétitif, d'avoir des clients, de les maintenir heureux. Donc, de voir qu'on peut aller à l'étranger, de voir l'ensemble des possibilités, là, les gens souvent ne savent pas par où commencer, par où regarder. Et là, ils voient tout ça, puis au lieu de partir puis d'aller fouiller, bien, il y en a que ça les rebute puis ils décident de ne pas y aller. C'est un message qu'il faut qu'on passe. Là. On a le temps, on est capable. Il faut juste faire les choses de façon ordonnée.
Il y a un défi, peut-être, vous diriez, supplémentaire pour les entreprises manufacturières qui veulent développer leur marché à l'international?
Bien, bien sûr, parce qu'au Québec, on a beaucoup d'entreprises manufacturières. Ouais. On est le plus gros secteur en proportion du PIB, donc on est un secteur très, très important. Mais on a beaucoup d'intégration avec les États-Unis dans des chaînes de production. Ouais. On fait aussi beaucoup de produits de niche, et c'est peu connu, hein, l'exemple de ce que fait... Optima, c'est aussi très de niche. Donc, il y a des difficultés des fois avec des marchés nichés ou des produits qui sont déjà intégrés dans des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de production très claires. L'aéro, c'est un bel exemple. Hein. Quand on fait une pièce aéronautique, on ne peut pas nécessairement l'exporter sans certification, etc. Donc, il faut être très prudent de ce côté-là.
Oui, et ça, c'est vraiment un investissement. Puis ça crée aussi une barrière à l'entrée. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a franchi, on est de l'autre côté de la barrière aussi. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Et moi, ce que j'aimerais juste rajouter, il y a une expression que j'aime bien quand on dit faire face aux défis et aller de l'autre côté. On dit tout ce qu'on a toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Mm-hmm. Donc, il faut surmonter la peur pour aller chercher ces marchés-là, développer, aller au-delà du confort. Et à chaque fois qu'on s'adresse à l'international, il y a toujours du inconfort. Mm-hmm. Mais c'est juste une fois qu'on dépasse cet inconfort-là, qu'on y va, qu'on peut gagner. Si on reste toujours dans une zone de confort,
ouais.
Ben vous savez, c'est comme dans la vie, on reste dans une zone de confort, on reste là.
Il faut devenir confortable
dans l'inconfort.
Dans l'inconfort.
Exactement.
C'est ça. Bon, on parle d'exportation, évidemment. On parle... Là, ça devient des risques aussi, à un moment donné. Hein? Laurent, vous avez bien parlé de l'importance d'accompagner et tout. On accompagne dans les risques aussi, ouais. Beaucoup. Comment on arrive à mitiger ces risques-là?
Bien sûr, donc il y a énormément de risques d'un point de vue opérationnel bancaire, j'ai envie de dire. Et c'est là où c'est mon rôle principal de pouvoir, quand je parle de modèle d'affaires, je veux vraiment comprendre en tout moment où Toby importe et il exporte, c'est quoi toute sa séquence,
ouais.
Et où sont ses risques tout au long de la chaîne pour lui donner les outils bancaires pour pouvoir l'aider à les mitiger. Donc le premier, c'est plus important, la gestion du risque de change,
ouais.
Qui est vraiment très importante. La fluctuation de la devise, ça, c'est un impact sur l'entrepreneur et très peu d'entrepreneurs se couvrent dessus.
Ouais.
Je prends un exemple bête. Si Toby, vous achetez, par exemple, un hélicoptère aux États-Unis qui coûte 100 000 dollars US aujourd'hui, au taux à 1,40. Donc ça vous coûte 140 000 dollars canadiens pour avoir vos 100 000. Mais si dans 3 mois, vous devez payer dans 3 mois, donc vous passez votre PO aujourd'hui, vous payez que dans 3 mois. Si le taux a augmenté, la devise a augmenté, si elle a fluctué, par exemple, qu'elle est passée à 1,45, ça vous coûte 145 000 dollars canadiens pour payer ces 100 000 là, US. Donc là, vous perdez 5 000 dollars sur votre marge bénéficiaire. Et c'est là où on a des outils pour pouvoir vous accompagner, des contrats de change à terme, par exemple. On a d'autres outils en termes de mode de paiement, puis on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais qui sont importants à savoir, les lettres de crédit documentaire ou des lettres de garantie qui permettent de sécuriser les deux parties. Donc ce sont des outils de banque à banque, mais qui viennent d'un côté sécuriser le fournisseur que l'importateur a l'argent et qu'il va régler, et de l'autre, toute la documentation pour pouvoir dédouaner votre marchandise va passer par Desjardins, on va l'analyser. Et si tout est conforme à l'aide de crédit documentaire, on va vous remettre les documents et on va payer votre fournisseur. Donc, en fait, on sécurise les deux parties par rapport à cela. Généralement, on l'utilise quand c'est un nouveau fournisseur qui n'a pas une relation de confiance.
Mm-hmm.
Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment justement d'établir comment vous travaillez avec qui, ce qu'il en est. Et voici les outils qu'on a pour vous aider à mitiger ces risques-là et à mieux dormir, en fait, tout simplement. Vous avez des assurances pour votre voiture, pour votre maison, pour tout, ben, les contrats de change à terme sont des assurances pour sécuriser votre marge bénéficiaire.
Et c'est pour ça que, Laurent, vous travaillez vraiment beaucoup avec Josiane hein, sur l'accompagnement financier.
On travaille en collaboration.
Exactement.
Ouais.
C'est ça.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Josiane, peut-être?
Oui, bien, c'est ça, dans le fond, pour faire du pouce sur ce que Laurent dit, tu sais, tout ce qui est lettre de crédit, lettre de performance ou quoi que ce soit qui peut être exigé pour une entreprise comme Optima Aero, bien, il faut qu'on ait des facilités déjà mises en place parce que quand il y en a besoin, c'est tout de suite. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Donc, on travaille également avec des partenaires à ce niveau-là, avec Exportation Développement Canada.
Après, bon, il y a la contribution des entreprises à l'innovation. On a un peu abordé la question de l'importance d'innover tout le temps. Là. Est-ce que c'est important, Julie, que ça soit reconnu par le public, mais peut-être plus encore par les gouvernements?
Oui, effectivement, l'écosystème manufacturier peut avoir l'air un peu vieillot hein, pour la population. Ils ont l'impression qu'on a des usines un petit peu vieilles, polluantes, pas très modernes, mais c'est pas le cas. Si on va sur le terrain puis on visite une entreprise manufacturière, généralement, c'est bourré de technologies, c'est super innovant. On a du génie au Québec, on a des choses importantes. Il faut que le gouvernement continue à soutenir l'innovation, qu'il en mette encore plus. Quand je disais que c'est le temps en ce moment là, de travailler sur la compétitivité, la productivité, c'est là. Et on a aussi besoin de l'aide des gouvernements pour venir complémenter qu'est-ce que les institutions financières font avec les entreprises.
Ouais. Et ils sont là?
Ils sont là en ce moment. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y en avait dans les dernières années. C'est devenu plus sexy de parler de manufacturier, plus sexy de parler de machinerie d'innovation. Et on voit que de plus
mais
en plus d'ouverture.
Plus vital, peut-être, aussi,
ben oui,
parce qu'on comprend que c'est
exactement.
Vital maintenant pour l'économie et le PIB.
Je pense que tout le monde a eu une espèce de réveil sur le secteur manufacturier. On est 12,3 % du PIB. Là. C'est le plus gros secteur en termes d'importance dans le PIB. Les gens ont eu ce réveil-là avec l'administration américaine. Et là, on sent qu'il y a des portes ouvertes. Je dirais qu'il y a plus de programmes qu'il n'y en a jamais eu au gouvernement pour soutenir financièrement les entreprises. Et à la fois au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, c'est le temps de regarder ces opportunités-là aussi. qui vont vous aider si on est une entreprise à devenir plus compétitif et ça fait des excellentes bases pour aller développer les marchés à l'extérieur.
Oui, effectivement. Laurent?
Quand on parle de marché extérieur, là, on le sent depuis le début de l'année, le Canada est beaucoup regardé, l'Ouest canadien est beaucoup regardé. On avait tendance à aller beaucoup aux États-Unis. Moi, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagnais, je vais au Québec, je vais directement aux États-Unis.
Ouais.
On minimisait l'Ouest canadien. C'est un chemin naturel.
Ouais.
Et donc là, il y en a beaucoup qui sont en train de se revirer, de se dire, bon, le marché américain reste le marché américain, sera notre plus gros partenaire. On va pas pouvoir le changer. Mais par contre, je veux limiter un petit peu ma dépendance. Je vais regarder un peu ce qui se fait ailleurs au Canada. Mmh. On est en train de voir pour faciliter le commerce interprovincial. Donc là, on a beaucoup d'entreprises en ce moment qui vraiment, en plus d'autres marchés internationaux, regardent aussi le reste du Canada.
Dans nos entreprises manufacturières, notre dernier sondage sur l'impact des tarifs et les solutions qu'ils ont mis en place, la première solution, c'était de réviser les chaînes d'approvisionnement, s'assurer d'avoir plus de fournisseurs près de leur production. La deuxième solution, c'était d'aller voir les autres marchés canadiens et après ça, d'aller voir les marchés internationaux. C'est normal. Il y a quand même plus de facilité à regarder les marchés canadiens avant de se dire qu'on est à l'extérieur. Mais ça fait partie, évidemment, des solutions qui sont mises de l'avant.
Nous, en fait, on a fait la même chose que vos clients. C'est-à-dire qu'on a investi au Québec d'équipement capital pour servir des clients québécois qui avaient des fournisseurs américains qui, maintenant, aujourd'hui, prennent le choix de faire affaire au Québec. Et on pense que ça va être le cas aussi plus largement au Canada. Donc, nos investissements, c'est-à-dire, et notre argument de vente, c'est vous n'avez plus besoin d'aller aux États-Unis, on offre le service maintenant au Québec. Et donc, cet aspect un peu de différenciation entre le Canada et les États-Unis, maintenant, c'est une opportunité aussi pour nous. Il faut saisir et casser finalement ce cheminement-là parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin de faire. Maintenant, il y a un intérêt de faire chez nous.
Exactement. Puis, j'ai envie de vous citer, Toby. Parce que vous dites souvent, chaque nouvelle étape donne le vertige. On sait qu'on est prêt pour la prochaine étape quand on n'a plus peur
Exactement.
De la hauteur à laquelle on est rendu.
Oui.
Ça tombe bien quand on,
ouais,
quand on fait voler. Quand on est dans l'aéronautique.
Ouais, exactement. Ça m'est arrivé quelques fois.
Vous avez eu peur.
Oui, j'ai eu peur. Ouais. Et je me souviens distinctement du premier local que j'ai loué. Ça représentait 1 000 par mois. Et ça m'a donné le vertige. Mais aujourd'hui, c'est plus la même taille qui me donne le vertige. Mais par exemple, s'en aller dans un nouveau pays avec un investissement qui est nouveau dans une nouvelle frontière, ça donne le vertige. Et c'est ça aussi le fun de l'entrepreneuriat, c'est de se mettre au défi soi-même, de s'agrandir sa capacité, de prendre l'altitude.
Josiane, l'altitude, les hauteurs, ça vous fait pas peur? Vous n'avez pas le vertige chez Desjardins, non?
On est des champions de l'altitude. On accompagne nos membres jusqu'au sommet qu'ils veulent aller.
Oh. Puis l'idée, c'est d'encourager l'ambition d'un entrepreneur comme Toby. On sent là, qu'il n'y en a pas de limite. Là.
Ah, puis,
on pourrait dire sky is the limit.
Avec Toby, c'est ça.
Mais bon, même le sky is not the limit.
Non, parce que ça peut être du spatial.
Exact. Voilà, c'est ça. Fait que vous allez être là pour encourager la créativité, l'innovation, on a bien compris. Et merci beaucoup à vous tous. Merci à tous les quatre. Ça a été vraiment une discussion enrichissante. Et on vous souhaite dans 5 ans, Toby, d'être aussi haut que vous voulez.
Bien, merci, Isabelle. Écoutez, avec des champions comme on a autour de nous au Québec, on ne peut pas faire autrement.
C'est clair.
Libre-échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Toby Gold, président d'Optima Aéro, Josiane Sénécal, directrice de compte marché commercial, et Laurent Suruska, directeur développement services internationaux chez Desjardins Entreprises. Également Julie White, PDG, manufacturier et exportateur du Québec. Suivez-nous sur votre application balado préférée et sur la chaîne YouTube Desjardins.